Vous écoutez RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette curiosité du vendredi. Bah oui, on est là aussi jusqu'à 22h. Ça
ouais,
va, Sidonie ?
Quelle ambiance dans le studio. Je veux tous vous entendre crier.
Ouais !
C'est pas mal. Bon. Salut à vous les curieux. Au programme, le sexe au cinéma à l'occasion du Festival de Cannes. On vous dit tout sur les amours secrets, les couples qui se forment, sur les tournages, de belles histoires, des éteintes utiles aussi évidemment, des duos improbables et des stars de légende.
Et moi j'ai quand même une question, est-ce que cette musique sera encore la même la saison prochaine quand on parlera un thème un peu hot ? Parce que si c'est pas celle-là, on sera perdu.
Mais c'est notre marque de fabrique.
Voilà, bon, en tout cas à l'heure où l'on découvre une nouvelle première dame, et là il faut changer de musique, Brigitte Macron, on vous parlera d'une ancienne femme de président. Claude Pompidou, mais alors sous un jour surprenant.
Saviez-vous qu'elle était médium, qu'elle testait ses tailleurs en se roulant sur le tapis, qu'elle n'oubliait jamais d'emporter dans ses valises du saucisson et une bouteille de Cahors.
Plongée originale dans les coulisses de Matignon et de l'Élysée. Donc, mais tout de suite, on mène l'enquête sur RTL ou comment la science vient au secours des gendarmes.
RTL.
Bienvenue à Melun, au musée de la gendarmerie nationale. Je vous embarque pour une visite insolite des collections.
La curiosité est un vilain défaut.
Assaut !
Jusqu'à 22h.
Un projet unique en France qui présente au grand public le patrimoine de l'une des plus anciennes institutions françaises.
Assaut !
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un chiffre qui nous a surpris. La gendarmerie découvre ou se retrouve confrontée en moyenne à 2 cadavres par jour, plus de 700 par an. Que fait-elle ensuite ? Comment les enquêtes se déroulent-elles ? Pour répondre à ces questions, on va se mettre dans la peau d'un enquêteur et surtout écouter les conseils de nos invités, la capitaine Elinor Boularan. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Et le colonel Patrick Touron. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Alors, vous êtes respectivement directrice du musée de la gendarmerie qui accueille à Melun jusqu'au 30 juin une expo sur les sciences du crime. Et vous êtes le directeur d'un institut très sophistiqué qui s'appelle l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, qui est basé à Pontoise, qui est tout neuf, je crois, qui a été inauguré il y a 2 ans, c'est ça ?
Il y a deux ans que nous sommes installés dans des structures adaptées à nos moyens d'investigation actuels.
Ouais. Alors ça, c'est les nouveaux locaux, mais l'Institut lui-même, il a été créé il y a combien de temps et pourquoi ?
Il a été créé dans les années 90, hein, suite au constat relativement simple que la gendarmerie a fait sur la découverte sur les scènes de crimes à gérer ou d'infractions, qu'elle avait besoin d'experts, qu'elle avait besoin de pouvoir déployer ses experts au plus proche des enquêteurs pour être plus efficient, qu'elle avait besoin aussi d'assurer une part importante qui est la formation de sa chaîne criminalistique complète de constatation, c'est-à-dire qu'un enquêteur sur le terrain, lorsqu'il a besoin de révéler des indices ou de les exploiter, encore faut-il savoir ce qu'il peut attendre des scientifiques qui sont dans les laboratoires. Mmh. Et un quatrième point qui est important aussi, c'est que dans le domaine des sciences, hein, et les sciences forensiques hein, appliquées au procès pénal n'y échappent pas, il y a besoin de toujours évoluer, de progresser, d'innover. Et c'est un peu ce que notre structure et ses beaux bâtiments nous permettent d'innover et de créer.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord de nous faire visiter cet institut de recherche criminelle ? Par exemple, combien de personnes y travaillent ?
Nous sommes 265 personnels, des scientifiques, dont 180 pratiquent l'expertise au profit des magistrats ou des enquêteurs qui nous sollicitent, hein, enquêteurs gendarmerie ou enquêteurs police nationale de demande.
Quels sont les différents métiers que l'on peut croiser dans cet institut ?
Nous avons 40 domaines. Globalement, retenez une chose.
On note.
Tant
tout.
Que ce sont des sciences dures, c'est au laboratoire.
C'est quoi des sciences dures ?
Sciences dures, c'est-à-dire que nous donnons un résultat scientifique que nous présentons au jury. Donc il faut que ce soit incontestable, fiable et compréhensible par le justiciable. Donc pour ça, nous suivons les règles de tout résultat scientifique qui consiste à ce que ce résultat soit réfutable, non dogmatique, partagé par les pairs, avec une incertitude de mesure connue. C'est un résultat scientifique. Donc typiquement, l'astrophysique, c'est une science dure, où une incertitude de mesure connue peut être donnée, ça rentrerait dans le domaine des sciences du procès pénal.
Et c'est quoi les sciences molles alors ?
On les considère comme, dirons-nous, des sciences humaines la plupart du temps, ouais. La sociologie, la criminologie.
D'accord. La psychologie,
qui sont des domaines très importants pour comprendre les phénomènes du crime. Hein. Et ben, ça rentre dans un autre service, que le service ou même les statistiques hein, liées à l'environnement du crime, ça rentre dans un autre service qui est le service central de renseignement criminel, qui est mon voisin. Au sein d'une structure plus complexe qui est le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, qui regroupe ces deux structures avec la cybercriminalité, puisque c'est aussi un monde actuellement qui existe, hein, ces réseaux sur lesquels beaucoup de gens circulent, où on est victime souvent hein, de choses-trappes. Et donc on a des gendarmes qui sont là aussi pour protéger les citoyens sur ces réseaux.
Elinor Boularan, on visite en quelque sorte dans cette exposition l'Institut, où on voit comment fonctionne l'Institut en se baladant dans l'expo.
On a travaillé notre parcours de visite en se calant sur l'organigramme de l'IRCGN. Donc comme l'IRCGN est divisé en 4 divisions criminalistiques, eh bien nous avons divisé notre parcours dans ces 4 divisions criminalistiques.
Et donc alors on va d'où à où alors ?
Alors le visiteur commence par la division criminalistique identification humaine, il continue avec la biologie génétique, il continue avec la physique chimie et il termine par l'ingénierie numérique.
Donc si j'arrive pour commencer à visiter l'expo, je suis comme un enquêteur. Je vais avoir comme outil ?
Alors, vous arrivez sur une scène de crime et vous devez vous glisser à la fois dans la peau d'un enquêteur et à la fois dans la peau d'un expert. Ce qu'il faut savoir, que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. On est soit enquêteur, soit expert. Mais au musée, on fait les deux. On est doté d'un livret d'investigation et puis on fait des manipulations. On a 15 indices à disposition et on doit relever ces indices, les analyser pour, à la fin du parcours, trouver éventuellement le criminel que de l'enquête.
Vous avez évoqué l'identification humaine, c'est une division criminelle à part entière. Comment est-ce qu'on peut identifier un criminel aujourd'hui ? C'est quoi ? Quels sont les outils ou les indices dont on a besoin ?
L'identification humaine, hein, dans cette division, on dit souvent « vous nous intéressez que morts, mais aussi vivants ».
Ah oui.
C'est sympa, merci.
On s'intéresse à tout le monde.
Ça nous rassure d'un seul coup.
C'est-à-dire qu'on peut retrouver une victime qui a besoin d'être identifiée, on peut vous retrouver à état squelettique, on peut vous retrouver profondément dégradé. Et donc tout ça, on utilise l'ensemble des moyens disponibles pour pouvoir redonner une identité à une personne. C'est la partie clé.
Il y a les plus évidents, il y a les empreintes digitales.
Oui, premier point. Second point, j'en profite.
Moi, je dirais la dentition,
par exemple. La dentition, alors c'est souvent utilisé lorsqu'on est décédé. Oui. Par exemple, dans le cas du tsunami, pratiquement 80% des victimes ont été identifiées grâce à l'odontologie légale. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration avec tous les dentistes de France ou même dans le monde, hein, et on arrive à classifier vos dents en fonction de vos plombages, vos différents inlets, vos... Et à partir de là, ça fait comme un code-barre qui vous signe, qui vous identifie, ouais. Et on arrive à vous identifier.
Oui. Et la pilosité aussi et les cheveux, parce que moi aussi je veux ma bonne réponse, je joue.
La pilosité n'est pas utile parce qu'elle peut changer, elle est variable dans le temps. Mmh. Mais là on en a donné que 2, hein, et encore pas les plus flagrants.
L'ADN.
Voilà, l'ADN, très bien. Donc
l'ADN, je suis bon élève ce soir.
Oui, vous êtes pas mal, vous avancez bien. Il y a l'ADN, bien sûr, c'est un des marqueurs forts, hein, très actuel. Il faut savoir que ça a fait une véritable révolution, hein, dans le monde des sciences criminelles. Puisque dans les années 90, on commençait à pouvoir identifier une personne avec l'ADN. Hein, c'est les grandes évolutions de Jeffreys, qui est un scientifique anglais. Et après, il y a une révolution majeure. Parce qu'on pouvait travailler avec une trace de sang, une grosse goutte de sang. On pouvait vous faire un profil génétique. Et à partir des années 90, on a pu faire de la PCL, c'est-à-dire qu'on a amplifié. Et là, pratiquement une micro-goutte de sang à peine visible était suffisante. Et à l'heure actuelle, quelques cellules suffisent.
Alors on va continuer grâce à vous de participer quasiment à une enquête de la gendarmerie grâce à cette exposition et grâce aux experts de l'Institut de Recherche Criminelle. A tout de suite sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les sciences du crime dans l'œil de notre curiosité au cœur d'une exposition qui se tient jusqu'au 30 juin au musée de la gendarmerie de Melun. C'est en partenariat avec RTL et c'est vous, Elinor Boularan, qui dirigez ce musée. À vos côtés, Patrick Touron, directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Elinor, on va commencer l'enquête avec vous. On va se mettre dans la peau vraiment d'enquêteur. C'est ce que propose cette exposition. Et toute enquête commence par une règle de base. En 7 points, donc on a de la chance, on vous a avec nous. Vous allez nous briefer, quels sont ces 7 points à bien maîtriser ?
Alors, quand on arrive sur une scène de crime, la première chose à faire, évidemment, est de geler les lieux. Ensuite, l'expert va pouvoir balayer cette scène de crime en partant de l'extérieur vers l'intérieur et puis relever tous les indices selon, justement, les matrices, les matières qu'il souhaite récupérer, analyser et dont il pense qu'elles vont servir à l'enquête. Donc, c'est tout ce déroulé de l'enquête que l'on indique à travers donc 15 indices que le visiteur va devoir suivre.
Et donc, on doit faire forcément aussi appel à des experts. En quoi est-ce qu'ils sont différents des enquêteurs ? En quoi ils vous complètent ?
Alors, l'expert sera plutôt dans l'analyse scientifique, comme vous le disait très bien le colonel Touron. Et l'enquêteur sera plutôt dans l'enquête d'environnement, dans la récolte de témoignages, dans tout ce qui est environnement de l'enquête, dans tout ce qui est conjoncture, formalisation des hypothèses. Donc, les deux se complètent. Pour autant, temps, l'expert doit être totalement objectif.
Oui, c'est donc, ce que j'allais vous dire. Il ne connaît pas forcément tous les détails de l'enquête.
Il ne connaît pas tous les détails de l'enquête. Alors après, s'il fait des prélèvements, évidemment, sur place, il aura des éléments qu'il pourra observer, qu'il pourra analyser, qui lui donneront des indications sur l'environnement. Pour autant, on ne va pas l'informer systématiquement sur le déroulement d'une enquête, sur même le résultat qui sera donné.
C'est-à-dire que vous allez faire exprès de ne pas l'informer, presque.
Oui, je pense que c'est plutôt comme ça. Le colonel pourra le confirmer, mais effectivement, on tient un petit peu à l'écart l'expert pour qu'il reste totalement objectif.
Voilà, on distinguera deux cas. Hein. C'est lorsque l'expert se déplace sur la scène d'investigation. D'accord ? Donc, il est au courant d'un certain nombre de choses. Du deuxième cas, où l'expert reçoit au laboratoire un certain nombre d'échantillons à analyser. Et là, il est préférable qu'il n'ait aucune information sur le cas et qu'il l'exploite de manière à rendre un résultat scientifique, c'est-à-dire sans aucune influence ni aucun biais du fait qu'il ait connaissance des âges de l'information. Je peux illustrer ça par un petit cas que j'ai rencontré et qui m'avait posé problème à l'époque. C'était une femme qui avait été assassinée. Sur le corps, il y avait eu des traces de feutre qui avaient été marquées. Les gendarmes étaient arrivés assez rapidement, avaient interpellé l'auteur. L'auteur reconnaissait les faits et lors de l'audition, il disait, ben voilà, j'ai marqué que cette dame est une mauvaise dame, voilà, sur le corps avec ce stylo. Et puis voilà, le gendarme lui a dit, quel stylo ? Il a pris le stylo sur la table, il y avait 5 stylos. Il a dit, voilà, avec les stylos qui sont là. Et puis voilà, tout le monde était content. Le magistrat, le juge, décide de vérifier, preuve corroborative dans notre jargon très technique, de prendre les stylos. J'ai analysé les fragments, l'encre présente sur la peau de la victime, j'ai analysé les stylos et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'aucun ne correspondait.
Donc il s'accusait d'un crime qu'il n'avait pas commis, c'était quoi l'histoire ?
Ou il y avait un complice ?
Première hypothèse, seconde hypothèse, je sens que vous êtes bon pour écrire des romans. La réalité était beaucoup plus triste, donc je dis au magistrat, j'ai aucun des stylos qui ne correspond. Et là, j'ai senti, mais monsieur l'expert, l'auteur a avoué, les gendarmes sont arrivés, il dit qu'il a fait avec ses stylos. Vous êtes sûr de vos techniques ? Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Vous voyez, troisième hypothèse, l'expert serait peut-être incompétent puisque ça ne colle pas avec les déclarations d'un auteur à qui on pourrait peut-être pas lui faire forcément confiance, puisqu'il a quand même commis un crime. Donc voilà, pas eu de réponse pendant 2 ans, donc pour moi je n'avais aucun stylo qui correspondait. Je vais au tribunal. Au tribunal, je me retrouve aux assises. J'ai le président d'assises qui me dit quels sont vos résultats. Moi je dis j'ai mes 5 stylos, j'ai fait l'analyse de l'encre présente sur le corps de la victime et ça ne correspond
pas.
Ça ne
matche pas.
Et il vous dit et ça ne vous perturbe pas puisque l'auteur avait déclaré que c'était avec ses stylos. Je dis si. Il m'a dit je vais vous apporter la réponse. L'auteur était dans la salle, il dit « Monsieur, je ne me souviens plus son nom, venez expliquer à l'expert ce qui s'est passé. » Et le monsieur explique, alors vraiment, ça m'a même surpris à l'époque, il vient et dit « Monsieur l'expert, quand les gendarmes m'ont attrapé, j'ai voulu les embêter et le stylo que j'ai employé, je l'avais jeté dans l'égout en partant et je les ai dit ça pour les embêter. »
Et je ne l'aurais pas dit.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour les embêter. Donc, voilà. Donc je veux dire, tout est possible, même les choses les plus naïves ou les plus incroyables.
Elinor Boularan, cette expo au musée de la gendarmerie à Melun, est-ce que, j'imagine que vous avez eu ça en tête, mais est-ce que ça ne risque pas de donner des clés quand même aux délinquants ?
Alors,
puisque ça révèle une partie de vos méthodes.
Alors, on n'explique pas aux délinquants comment ne pas laisser de traces. On explique justement que peu importe la trace qui est laissée, les experts de la gendarmerie pourront les analyser. Donc on est plutôt dans la méthode, mais on n'est pas là pour dire aux criminels attention, comme ça vous ne laisserez pas de traces, comme ça vous ne laisserez pas d'indices, etc. Donc on explique plutôt la méthodologie.
Est-ce qu'un criminel laisse toujours des traces ?
Oui. Il y a toujours des traces sur une scène de crime qui sont laissées, sur n'importe quelle scène. C'est le fameux principe d'échange de locard. Dès lors qu'on
d'échange
arrive...
D'échange de locard.
Voilà, donc
c'était
un scientifique qui avait justement théorisé le principe qui dit que lorsqu'on pénètre dans un lieu, on va forcément y laisser des traces. On va laisser des cellules épithéliales, on va laisser des cheveux, on va laisser, des morceaux de peau, puisqu'on se désquame naturellement finalement. Et donc on va laisser des fibres, on va laisser des cheveux, on va laisser des traces, on va se frotter contre des meubles, contre des murs. Et toutes ces traces vont pouvoir justement être analysées puisque les experts laissent très peu de chance à ces traces d'être invisibles.
Comme dans la récente affaire Troadec où le sang avait été nettoyé, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de traces et finalement on a retrouvé des traces. On laisse toujours des traces et dans cette affaire, c'est un bon exemple.
C'est un bon exemple. Il faut savoir qu'une trace de sang, on ne peut pas vraiment la nettoyer. On la dilue, c'est vrai. Mais
on ne peut pas disparaître.
Rester, quasi quasiment pas. C'est très difficile à faire disparaître. C'est dilué.
Comment on détecte du sang nettoyé ?
Eh bien, on va pulvériser justement un produit qui s'appelle le Blue Star et qui permet de révéler ces traces. Donc, on éteint la lumière, on pulvérise le Blue Star et après, on projette la lumière d'une crime light sur ce sang. Hein, et cette lumière qui est calculée avec une longueur d'onde très particulière,
une lampe torche,
hein, voilà, eh bien, va révéler en espèce de couleur bleue ce sang qui a été laissé sur place, mais qui pourtant, quand on allume toutes les lumières, ne se voit pas.
D'un point de vue un peu plus technique, hein, c'est du luminol qui réagit avec le calcium présent sur la scène et qu'on éclaire dans une longueur d'onde correspondante et qui permet de voir ce qu'on ne voit pas.
Génial.
Tous les chimistes savent ça. Il y a un TP de chimie qu'on fait en deuxième année.
C'est là qu'on voit que vous êtes super complémentaires.
Allez, on continue notre enquête sur RTL. On va révéler quelques empreintes dans une minute. Restez avec nous, les curieux sur RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer.
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce qu'un nudiste ?
Chef, c'est quelqu'un de tout nu.
Merlot, qu'est-ce qu'un gendarme ?
Quelqu'un de tout habillé, chef.
Avec un uniforme.
Très bien.
RTL.
Tous les gendarmeries, dans la gendarmerie.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On est sur une scène de crime dans la curiosité, c'est la gendarmerie qui enquête et du coup forcément Truchot, Bourville, tout le monde est là, de Funès, on pouvait pas s'en empêcher évidemment, on parle de la gendarmerie et des enquêteurs de la gendarmerie à l'occasion de cette expo qui se tient au musée de la gendarmerie de Melun, Science du crime, c'est jusqu'au 30 juin avec nous la capitaine Elinor Boularan, je rappelle que vous êtes la directrice de ce musée, et le colonel Patrick Touron, directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Il y a un mot en préparant l'émission que je ne connaissais pas forcément, ça s'appelle les traces papillaires. Alors c'est quoi les traces papillaires ?
C'est l'expression pour parler d'empreintes digitales. C'est-à-dire que c'est une empreinte présente sur la peau et qui laisse un schéma et un dessin vraiment caractéristique, qui est individualisant. Individualisant, c'est très important parce que ça a une force probante supérieure à l'ADN pour une raison toute simple. C'est que c'est la création des différentes minuties qui sont les petits signes que vous avez sur les doigts.
Les spirales.
Les spirales et les petits impacts qui font les séparations entre les arcs, les boucles, sont vraiment caractéristiques, sont faits de manière aléatoire. Puisque ça apparaît lors de troisième et quatrième mois de votre, lorsque vous êtes à l'état fœtal, et les petits impacts qu'a l'enfant sur le contact du ventre de la mère impactent le en intradermique.
C'est comme ça que ça naît.
Et ça naît.
C'est avec les petits ongles,
totalement aléatoire. Donc ce qui fait que c'est aléatoire et c'est plus discriminant que l'ADN.
Discriminant, ça veut dire que ça permet vraiment de savoir qui est qui. Voilà.
Parce que si vous avez un frère jumeau, il a le même ADN que vous. Alors que les empreintes digitales seront vraiment différentes.
Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux humains sur la planète qui ont les mêmes empreintes digitales.
Alors c'est ce qu'on essaie de démontrer, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est en tout cas totalement aléatoire.
D'ailleurs, ça avait inspiré notre directeur des programmes, Jacques Expert, pour un polar, ça. Une histoire de frères jumeaux assassins qui avaient le même ADN et pas les mêmes empreintes digitales. Enfin non, là, oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces empreintes justement digitales
Et puis comment, est-ce que ça a évolué, pardon Sidonie, est-ce qu'on relève les empreintes aujourd'hui comme... il y a 50 ou 70 ans ? Ou est-ce qu'il y a des techniques nouvelles ?
Oui, disons que dès qu'on a pris conscience, dès qu'on a fin du 19e siècle, on a pris conscience que chaque individu était porteur d'empreintes digitales qui lui étaient propres. Donc là, à partir de là, on a commencé à se servir de ces empreintes digitales pour faire des fiches et pour retrouver, initialement, c'était surtout pour retrouver les récidivistes, puisqu'à l'époque, la photographie n'était pas aussi développée. Et lorsqu'il y avait des récidivistes, on ne savait jamais si la personne changeait de nom, si c'était un autre ou lui-même. Et comme la peine était plus importante, ils changeaient tous de nom, de fait. Donc avec les empreintes digitales, on a mis en place un système qui permettait de retrouver spécifiquement le porteur d'empreintes digitales. Alors ça, c'est important, mais la véritable évolution a été la capacité à rechercher et révéler les empreintes digitales sur les scènes d'infraction. Ça, c'est le gap intellectuel qui a été réalisé.
Ça veut dire quoi ?
Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous aviez des fiches avec une empreinte digitale et vous aviez une personne, vous pouviez le comparer. Mais à partir du moment où ils ont commencé à rechercher sur les scènes d'infraction les empreintes digitales et à les comparer avec ce qu'on avait sur les fiches, ça a été une véritable révolution parce que ça a été une trace que laissaient les gens sur les scènes de crime. Le premier condamné était en France, hein, c'est M. Schaeffer, qui avait commis un crime, qu'il avait laissé ses empreintes sanglantes sur un meuble. Et c'est justement M. Bertillon qui avait à l'époque recherché, trouvé cette empreinte et associé avec les fiches qu'il détenait.
Ouais, on en avait parlé ici avec Jacques Pradel du fait que ce soit Alphonse Bertillon qui avait inventé le système. Vous en parlez dans votre expo, de ce précédent ?
Alors très peu, parce que dans cette expo, on est vraiment dans l'actualité. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a quelques petits détails historiques, mais très très peu.
Et des affaires marquantes de ces 10 ou 15 dernières années, est-ce que vous y faites référence ? Par exemple, moi j'ai en tête l'affaire du Grand Bornand, qu'on a d'abord appelé l'affaire Flactif, du nom de cette famille qui avait disparu. Finalement, on s'était rendu compte que c'était le voisin David Othia qui les avait tués. Vous en parlez dans votre expo ?
Alors oui, c'est vrai que le principe de l'exposition est d'expliquer les méthodes des experts, bien sûr, sans aller trop dans le détail, vous l'aurez compris. Et on illustre ces techniques par des affaires, justement, dans lesquelles elles ont servi et dans lesquelles elles ont permis d'identifier le coupable. Donc là, d'ailleurs, si je peux céder la parole au colonel qui avait participé directement aux investigations de l'affaire du Grand Bornand.
Quel était votre rôle dans cette enquête, colonel ?
J'étais expert incendie, donc je me suis occupé de toute la partie crémation, puisque M. Othia avait été tenté de faire disparaître les corps, avec selon le principe que si on n'a pas de corps, bien sûr, il n'y a pas de crime. Mmh. Donc, bien entendu, l'ensemble des investigations qui avaient été conduites par la section de recherche de la gendarmerie locale avaient procédé à l'ensemble des investigations. Et je dirais que ce qui m'a marqué dans cette affaire, en dehors du comportement d'un criminel, mais on n'a pas jugé le comportement d'un criminel parce que par définition il n'est pas acceptable ou pas compréhensible ou j'allais dire raisonnable de l'expliquer. Ce qui avait été vraiment pour moi le plus important, c'est que la personne, une fois qu'elle a été incriminée, on a pu commencer à lui dire qu'elle était concernée et elle a commencé, et c'est typique d'un comportement criminel, la personne se sent innocente, elle se sent coincée, elle reconnaît à mi-mot, elle dit que c'est un accident et ensuite il faut rechercher des éléments de preuve parce que plus personne n'est là pour le dire ce qui s'est passé. Et il dit que c'est une bagarre, ça a mal tourné, donc les gens sont décédés. Les gens cherchent à minimiser leur action propre. Et là, c'est l'hématomorphologie, c'est-à-dire l'étude des projections de traces de sang dans l'appartement qui a permis de montrer la violence qui avait été exercée par cet homme sur ses victimes. Et c'est cet indice, l'exploitation des traces de sang, qui a véritablement permis à la justice de trancher sur la gravité du cas et la violence des faits.
On va continuer notre enquête sur RTL. Tiens, sur la scène de crime, il y a un petit morceau de verre cassé, il y a un peu de terre sur le chemisier de la victime. Ça va suffire pour coincer le meurtrier. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'exposition Science du crime se tient jusqu'au 30 juin à Melun, au musée de la gendarmerie. Une exposition très sérieuse, contrairement à la mise en
œuvre. C'est une musique de gendarme,
André Facetta.
Rassurez-nous. La garde républicaine.
C'est la garde républicaine.
Un très bel orchestre.
Ouais. Ça. Donc notre réalisateur n'a pas choisi cette musique.
Exactement.
Par hasard.
Très joyeuse pour un sujet quand même assez sérieux, parce qu'on parle d'enquête, évidemment, et nous sommes avec la directrice de ce musée qui nous fait visiter cette exposition et qui nous met vraiment dans la peau des enquêteurs, Elinor Boularan, et puis nous sommes également en compagnie du colonel Patrick Touron. Est-ce que dans une scène de crime, tout est absolument tout utile ? Par exemple, un verre brisé, un verre cassé, ça peut servir d'indice ?
Ah oui, ça peut être tout à fait utile. Dans le cas de scène d'infraction, on pourra éventuellement définir dans quel sens le verre a été brisé, si le verre est brisé. Est-ce qu'il a été brisé de l'intérieur ? Est-ce qu'il a été brisé depuis l'extérieur ? On va pouvoir aussi, dans le cadre, par exemple, d'accidents de la route, dans le cas de débris d'optique, identifier éventuellement un véhicule qui a pris la fuite et qui aurait eu un accident contre un deux roues, par exemple. Donc, c'est vrai que ça peut être assez intéressant dans l'enquête.
Donc, ça permet ça de trouver le modèle de la voiture.
Typiquement, dans le cadre de l'affaire de la princesse de Galles, l'affaire Diana, nous avons identifié, et puis c'est moi qui étais l'expert requis sur l'identification des traces de peinture présentes pour identifier une Fiat Uno, et à l'entrée du tunnel, endroit où le choc initial a eu lieu, on a retrouvé des débris de phare arrière-gauche de Fiat Uno. Donc les débris d'optique ont pu être associés directement à un modèle de Fiat Uno.
Alors ensuite, on se dit, il y a combien de Fiat Uno à Paris, c'est ça, dans la région parisienne, et on commence à chercher.
Et voilà, et ça, vous rentrez dans le travail d'enquêteur. Ouais. Les experts vous donnent un marque, un modèle, un type, et les enquêteurs font les recherches.
Alors je disais tout à l'heure, juste avant la pause, un morceau de verre ou des résidus de terre, et je ne l'ai pas dit par hasard, en 2002, l'affaire des disparus de la Somme a été résolue grâce à des résidus de terre. Vous pouvez nous expliquer comment ?
Alors, notamment, alors c'est vrai notamment. que là où le corps de l'une des victimes avait été retrouvé, eh bien, le substrat, la terre, avait été analysé justement par les experts de la gendarmerie, et ils se sont aperçus que sous les roues de la motocyclette de l'un des suspects, il y avait exactement la même terre avec la même composition de sable, d'argile, de restes dans la terre. Et en faisant justement cette comparaison, eh bien, ils ont trouvé cet indice qui pouvait justement donner un élément supplémentaire qui a permis de confondre le suspect.
La balistique, c'est aussi un élément central pour les enquêteurs. Les experts la pratiquent depuis longtemps. Est-ce que c'est une technique qui évolue avec le temps, la balistique ?
Oui, elle évolue dans le sens où on est capable de numériser beaucoup plus rapidement. On a des moyens d'optique qui permettent d'automatiser la recherche.
Ça veut dire quoi, numériser, par exemple ?
Ah, d'accord. Ouais. Bah, en gros...
Ah oui, on part de zéro avec
capable,
nous.
On est capable de... En balistique, lorsqu'on fait une comparatif avec un projectile, le principe, c'est qu'un projectile qui passe à travers un canon prend des stries et des micro-stries. Et d'accord, qui caractérise et qui signe spécifiquement ce canon. Lorsqu'on retrouve un projectile, on recherche quels sont les canons qui peuvent correspondre à ce projectile pour permettre d'identifier donc le tireur. Mais la balistique a beaucoup évolué puisque toutes les caractéristiques de ces micro-stries sont désormais numérisées en 3D, intégrées dans des bases de données et que l'on peut interroger quasi automatique, voire à travers le monde. C'est-à-dire qu'on peut échanger, si les armes circulent transfrontalièrement, on échange des données informatiques extrêmement rapidement. Et ensuite, on arrive à voir si l'arme a circulé ou si elle a été utilisée dans un autre pays.
Et la balistique lésionnelle, ça veut dire quoi ?
Alors, c'est la manière dont un projectile exerce des blessures sur un corps. Donc, de manière traditionnelle, les médecins légistes de l'IRCGN travaillent en association avec les balisticiens pour savoir si le tir, par exemple, une personne...
Par où la balle est rentrée ? Alors,
il y a la trajectoire, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus important sur un crime. Beaucoup de gens vont vous dire, quand ils sont attrapés, le même principe que je vous ai décrit tout à l'heure, où les personnes disent « c'est un accident, le coup est parti tout seul ». Et lorsqu'on fait la remise en situation, on se rend compte que le tir a été effectué à 10 mètres. Ben, la balistique lésionnelle va nous donner une distance. Bon, on ne dira pas 10 mètres, mais on pourra dire à bout touchant, on pourra dire à proximité, à 1 mètre, à 5 mètres, voire 10 mètres. Et là, ça permettra de déterminer que ce n'était peut-être pas un accident, ce n'est pas un combat, et que l'explication qui nous est donnée n'est peut-être pas la bonne.
Est-ce que vous utilisez également les insectes, les pollens, les végétaux ? Ça parle ? Ça raconte quoi ?
Il y a tout un écosystème à partir de là, cet écosystème. Comme vous l'expliquez tout à l'heure sur le principe de Locard, qui veut qu'un auteur qui va sur un endroit prend des éléments ou laisse des éléments, les pollens, les traces de sol, etc., peuvent servir à associer une personne à un lieu. D'accord ? L'entomologie légale est un autre principe, c'est-à-dire qu'un corps est un élément biologique. Lorsqu'il est laissé dans la nature, il se dégrade. Quand on dit « se dégrade », il devient un élément biologique nourri par des insectes. Et lorsqu'on récupère les insectes, on peut voir depuis combien de temps ils sont là, quel est leur stade, et dire à partir de quand le meurtre a eu lieu. Car la datation d'un crime nous permet de rechercher, de contextualiser les auteurs potentiels, leur présence, leurs emplois du temps, les alibis qu'ils peuvent présenter. Donc les marqueurs du temps sont des éléments cruciaux dans le cadre d'une enquête.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. On a mené l'enquête grâce à vous et on a trouvé l'auteur du crime du jour. C'est André Facetta qui a choisi la musique de la garde républicaine pour illustrer cette soirée.
Merci formidable
beaucoup,
réalisateur.
André qui a la banane depuis ce matin grâce à la victoire de Monaco. Merci à tous les deux. Cette exposition, elle se tient donc au musée de la gendarmerie. Sciences du crime, c'est jusqu'au 30 juin à Melun. Merci beaucoup.
À suivre dans la curiosité, l'histoire du cinéma français par le petit trou de la serrure.
Vous écoutez RTL.